Le 18-19, Stéphanie Collo.
Soyez les bienvenus dans le 18-19. Au menu ce soir, le Haut Conseil pour le climat alerte. La France n'est pas prête face aux conséquences du changement climatique. Et on le voit en ce moment, hein, alors que le pays traverse actuellement sa troisième canicule de l'année. Et avec elle, son lot de polémiques autour de la clim ou encore des bouilloires thermiques. Dans ce contexte, comment réinventer la ville face au changement climatique? On va voir cela dans moins de 10 minutes avec Guillaume Poitrinal, le cofondateur de WWF. O2. Voyageurs du Monde décide de quitter la Bourse de Paris après y avoir été coté depuis 20 ans. La composition du capital est aussi remaniée avec la montée en puissance d'un fonds américain au sein du groupe. Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, sera sur ce plateau à 18h25. Il nous expliquera ce choix et nous livrera aussi les tendances voyage. Et puis seulement un tiers des dirigeants de TPE se reconnaissent dans les candidats à la présidentielle et leur situation économique se dégrade. Trésorerie, marge, chiffre d'affaires, on décrypte le nouveau baromètre des TPE avec Marc Sanchez, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Ce sera à 18h40. Mais d'abord, c'est le journal avec Erwan Maurice.
Le journal.
Bonjour Erwan.
Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous.
Et après une nuit de bombardements, de nouvelles frappes ont eu lieu au Moyen-Orient.
Des explosions entendues près de la centrale de Bouchehr en Iran, des sirènes d'alerte ont retenti en Jordanie et à Amman. Téhéran qui cible également le Koweït, le Qatar et Bahreïn. Pour autant, peu de transmissions sur les prix du pétrole qui se sont détendus depuis hier. Le point dans un instant et à 19h avec notre correspondant depuis Washington. Quelques avancées, mais aussi des reculs et des fragilités. Dans son dernier rapport, le Haut Conseil pour le climat appelle la France à changer d'échelle pour s'adapter aux conséquences du réchauffement. Au total, l'organisme fait 82 propositions, comme adapter les DPE au confort d'été ou élargir les dispositifs canicules. Dans ce contexte, la CGT, qui exige des mesures pour protéger les salariés, vient de lancer un outil en ligne. Il permet aux travailleurs d'évaluer leur exposition aux fortes chaleurs au moment où Météo France annonce placer demain 9 départements en vigilance rouge. La canicule qui contraint EDF à mettre à l'arrêt un réacteur de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne, tandis que l'autre réacteur de la centrale est lui stoppé pour maintenance. L'énergéticien est forcé de débrancher ses centrales lorsque la température des fleuves, dont l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs, touche les 28 degrés. Le gouvernement débloque 145 millions d'euros d'aide d'urgence pour soutenir les agriculteurs. Cela doit leur permettre d'alléger la facture liée aux engrais. Et l'exécutif annonce en parallèle engager une stratégie de long terme pour réduire la dépendance de la France aux engrais importés. Un programme industriel de 2 milliards d'euros sur 10 ans. Dans l'actualité des entreprises, la situation est explosive chez Volkswagen. En pleine restructuration, le constructeur allemand projette de fermer des usines. Et le négociateur du syndicat IG Metall avertit la direction qu'elle s'expose à un conflit majeur avec ses salariés si elle venait à mettre en exécution son plan de restructuration. Et puis, un pas de plus pour l'euro numérique. Le Parlement européen vient de valider la relance des discussions sur sa création. Elle doit permettre de trouver un compromis avec les 27 afin d'aboutir à sa création. Et la BCE espère pouvoir lancer l'euro numérique en 2029, sous réserve que la législation soit adoptée d'ici la fin de l'année. 18h02, les marchés. Bonsoir Antoine Larigaudry.
Bonsoir Erwan.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Antoine.
Et c'est donc du vert ce soir à la Bourse de Paris.
Oui, on se remet bien de la séance compliquée d'hier soir. On gagne 0,9% en clôture à 8326 points. Puis alors la tech était en forme, hein, plus 1,72% pour l'Euronext Tech Leaders, plus 1,28% pour l'Eurostoxx 50. Et oui, la tech s'est réveillée du côté de Paris. Elle avait surperformé malgré la forte baisse d'hier. Et ça a permis à ST Microelectronics de signer la plus forte hausse du CAC 40, plus 7,16% à 62,68€. Soitec, plus 5,86€ à 104,10€. Mersen encore, le spécialiste des matériaux de base pour l'électronique, l'électricité et les semi-conducteurs. Bah, globalement, là, le trio de tête du SBF 120, c'est le trio de tête du SBF 120 sur le premier semestre. On est en train de répliquer exactement le même classement. À la baisse, en revanche, on a les grands disruptés. Capgemini, moins 2% à 89€. Thalès, moins 2,95 à 226,80 €. Et puis à signaler Exosens, moins 2,80 à 57,65 €. Donc voilà un mélange de valeurs logicielles et valeurs de la défense qui était plutôt vendu aujourd'hui. Ça s'est calmé sur les taux d'intérêt. 3,75 pour le 10 ans français, 3,05 pour le 10 ans allemand, 4,55 pour la dette américaine. Ça s'est calmé sur le pétrole aussi. 76,50 $ pour le Brent de mer du Nord, 72 pour le brut léger américain. Les volumes d'échange assez légers, 3,5 milliards d'euros d'actions négociées sur un CAC 40 qui a quand même gagné 0,9% à 8 326 points.
Merci Antoine Larigauderie, merci Erwan. On vous retrouve à 19h pour le 19h Éco. Comment réinventer la ville face au changement climatique? C'est la question qu'on va se poser dans un instant avec Guillaume Poitrinal, le cofondateur de WO2, alors que le Haut Conseil au climat alerte sur l'impréparation de la France face aux conséquences justement du changement climatique. À tout de suite.
Le 18-19, Stéphanie Collo.
Soyez les bienvenus dans le 18-19. Le Haut Conseil pour le climat publie aujourd'hui son 8e rapport. L'instance indépendante alerte sur les politiques insuffisantes du gouvernement face au climat qui devient de plus en plus dangereux. La France qui traverse actuellement sa 3e canicule de l'année, avec elle son lot de polémiques autour de la clim, des bouilloires thermiques et des villes qui étouffent. Dans ce contexte, comment justement adapter les villes au changement climatique? On va voir cela avec Guillaume Poitrinal. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur de WO2, promoteur immobilier spécialisé dans le développement de bâtiments construits en bois massif. D'abord, une première question, comment vous regardez ce qui se passe actuellement en France? Quelle est votre lecture de la situation?
C'est le réchauffement climatique annoncé dans des courbes qui ont été annoncées, qui ont été prévues, donc il n'y a pas de... On sait que de toute façon, on va devoir affronter ce réchauffement climatique. Et à cela, il y a une double réponse à avoir. L'adaptation de l'existant, on va en parler. Et puis la baisse de nos émissions, parce que la France doit prendre sa part à ce grand, grand combat de la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui est à l'origine, de façon aujourd'hui quasiment incontestée, du réchauffement climatique.
Alors justement, l'adaptation, on dit que la clim, c'est bien, enfin, c'est pas quand même la solution à tout. Et il n'empêche, comment vous regardez les solutions passives qui émergent, les volets, la clim dans les endroits vraiment indispensables?
La première chose, c'est qu'en fait, pendant très très longtemps, y compris sur les modèles en fait de l'administration, on a pensé qu'une canicule, c'était 48 heures. C'était 36 heures, 48 heures. Et donc, on s'est dit, il faut faire des immeubles avec beaucoup d'inertie qui vont garder la mémoire dans les murs de la température d'avant la canicule. Et donc, pendant très longtemps, moi, on m'a expliqué, en tant que promoteur immobilier, il fallait faire des murs de béton le plus épais possible pour avoir gardé cette fraîcheur d'avant la canicule, et que moins il y avait de fenêtres, plus il y avait de béton, mieux c'était. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, la canicule fonctionne plus comme ça. Elle est plus là pour un jour ou deux jours, elle est là, elle s'installe pour une semaine, elle revient en fait par cycle. Et le problème de la ville totalement minérale, c'est que c'est une ville qui absorbe le chaud et la chaleur rentrent dans les murs, et c'est une ville qui ne décharge plus la nuit. Et donc on a ce sentiment d'inconfort assez horrible qui fait qu'en fait on a beau ouvrir la nuit, il n'y a plus de baisse de température, on a beau ouvrir les fenêtres, on n'arrive plus à respirer. Et donc, on est dans des phénomènes d'îlots de chaleur. Donc, s'il faut, c'est faire une ville beaucoup plus végétale, une ville avec beaucoup moins d'inertie, beaucoup moins de matériaux qui soient des matériaux à forte inertie, comme le béton, comme le bitume, comme l'asphalte, etc. Toutes les matériaux à forte inertie, il faut les sortir de la ville, il faut ramener de la nature, ramener de la pleine terre, et il faut construire nos immeubles avec des matériaux issus du biosourcé, comme le bois.
Alors, on va y revenir évidemment, mais quelle est selon vous l'erreur majeure qu'on continue à faire aujourd'hui dans l'urbanisme en France ?
Il n'y a pas d'erreur majeure. L'urbanisme, vous savez, ça se décide sur des dizaines d'années.
Eh oui, c'est...
Mais encore aujourd'hui, on privilégie ces matériaux à forte inertie. Une fois encore, cette inertie, c'est une erreur qu'on propose aux gens. Ce qu'il faut, c'est des matériaux très isolants. C'est un peu compliqué toujours à comprendre, les gens ont du mal à comprendre la différence entre l'isolation et l'inertie. L'inertie, c'est la capacité, c'est l'éponge, en fait, qui est éventuellement votre mur. Votre mur devient une éponge du froid, une éponge du chaud. Et donc, il va capter ça et ensuite, il va redonner ce chaud ou ce froid. Ça, c'est l'inertie. Ce qu'il faut, c'est des immeubles très isolés, mais avec peu d'inertie. C'est-à-dire que quand on a, nous on l'a vu sur les immeubles en bois, quand la nuit vous ouvrez, le frais rentre. Tout d'un coup, le froid rentre. Parce que votre immeuble ne rayonne plus la chaleur. Et donc, on passe d'un îlot de chaleur à des îlots de fraîcheur. Sur un des immeubles là, qu'on fait à Nanterre Université, qui s'appelle l'Arboretum, qui est un très très grand développement, on a 6 degrés et demi de différence aujourd'hui, à la minute à laquelle je vous parle, entre devant cet immeuble, entre cet immeuble, cet environnement là, en bois, avec la nature, et la dalle de l'éléphant, 6 degrés et demi. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, d'un côté, c'est vivable, d'un côté, c'est adapté au réchauffement climatique, et de l'autre, c'est juste un enfer.
Oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut refaire toutes les villes de France, parce que si on parle de Paris, Bordeaux, Lyon, ces villes centenaires ville. Avec des immeubles haussmanniens, va être compliqué.
Là où je vous coupe, c'est que l'immeuble haussmannien est assez adapté, en fait. Curieusement, la ville haussmannienne, elle ressemble d'ailleurs dans son dessin à la ville méditerranéenne.
Alors les gens qui habitent sous les immeubles, toits, je suis pas sûr que...
Il y a assez peu... Non, mais ensuite, il y a des endroits qui changent. Donc, l'immeuble haussmannien, en tant que tel, le plan haussmannien, on a pas mal d'ombre, en fait, assez peu de prise, en fait, au soleil, et on est plutôt dans une ville qui est... Remarque, alors, il faut rajouter de la végétation, évidemment, autour de cela, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qui pose problème, notamment dans notre industrie des bureaux, c'est tous les immeubles qui sont hyper exposés au rayonnement. Et vous avez vu, vous avez entendu dire que il y a des tours où on a plus où la
comme
clim
à la
a
défense,
sauté.
Par exemple.
À la défense, il y a des tours où la clim a sauté.
Absolument.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, un immeuble de grande hauteur, une tour, c'est comme une serre. C'est-à-dire, ça prend 300 degrés de rayonnement solaire. Et en plus, vous n'avez quasiment pas de mur. C'est que du vitrage. Et donc, il va falloir réadapter ça. Donc, on va avoir demain probablement moins de tours. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai été à la hauteur de 2 ou 3 tours quand je travaillais pour un autre employeur que moi-même. Donc, je sais à peu près de quoi il s'agit. Mais je pense que la ville de demain, je suis arrivé aujourd'hui à la conviction que la ville de demain, ça sera une ville de 6-7 étages, pas de 30 ou 40 étages. De 6-7 étages. Et qui va être une ville beaucoup plus végétale et construite avec ces matériaux biosourcés dont je viens de vous parler.
Et des matériaux aussi sans béton, aussi avec des solutions réfléchissantes, par exemple ?
Alors, évidemment, le blanc plutôt que le sombre. Évidemment, un travail sur le rayonnement, ça a l'air en fait des bâtiments qui sont adaptés par leur conception à recevoir moins de rayonnement solaire, parce qu'en fait, c'est ça qui fait le chaud. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire des casquettes, ça veut dire des brise-soleil. Et puis des bâtiments dans lesquels on se sent bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un courant d'air, parce qu'on peut ouvrir les fenêtres, et donc il n'y a pas ce sentiment d'oppression qu'on va retrouver sur d'autres types aujourd'hui d'architecture. Donc oui, il y a une grande révolution qui est attendue aujourd'hui.
Mais alors justement, comment on s'y prend et combien de temps ça va prendre tout ça, cette révolution ?
Ça va prendre un certain temps. Comme d'habitude, les plus audacieux, aujourd'hui, il y a ce type, on développe aujourd'hui ce type d'immeuble. On en parle assez peu, mais on développe ce type d'immeuble. Et j'ajoute là-dessus que je ne suis pas contre la climatisation. Souvent on pose la question, la climatisation, est-ce que c'est le diable ? Nous, donc WO2, c'est le numéro un aujourd'hui de la production de bureaux ultra bas carbone, c'est-à-dire des bureaux qui vont émettre moitié moins que des bureaux traditionnels en bilan carbone sur leur cycle de vie, c'est ça notre ambition. Nos bureaux sont équipés de clim, mais la plupart du temps, la clim est branchée sur de la géothermie, c'est-à-dire des puits à 60 mètres de fond, qui vont aller chercher de l'eau fraîche, et cette eau fraîche va évidemment être remise ensuite dans la nappe, mais ça va permettre de fournir 80% du froid de façon totalement décarbonée et sans aucun impact sur l'environnement. Donc on est capable d'avoir ces solutions.
On a
ces
la compétence.
Solutions, elles existent. Ouais. L'Île-de-France repose sur un immense bassin souterrain. Ouais. Nous avons à 60 mètres de l'eau à 13 degrés. Avec des pompes à chaleur, on peut la transformer en froid. Ce n'est pas un problème. C'est juste une question de volonté, un petit peu d'investissement et d'intelligence.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça coûte plus cher de construire des bâtiments comme ceux que vous construisez bas carbone ?
Marginalement plus cher. Et c'est ça la bonne nouvelle.
De quel ordre ? Dans quelle proportion ?
Plus cher. 50, 60 euros du mètre carré sur des bilans où on est à 6 000, 7 000 euros du mètre carré de coût total si j'inclus le foncier. Donc on est à 1 ou 2% de plus. Mais pour ça, il faut construire. Et donc il faut déterminer des fonciers, il faut réhabiliter. On est capable aussi de rénover des immeubles existants. Vous voyez là, on fait le nouveau siège de Sanofi au milieu de la Défense, qui était honnêtement une poubelles thermiques, énergétiques. On est entre le CNIT et l'ancienne tour Total. Ce qu'on a fait, justement, en réutilisant ces matériaux en bois, donc on va lui refaire complètement la couverture, on va créer un immense atrium au milieu, et on va faire un immeuble qui va consommer 3 fois moins, mais surtout beaucoup plus habitable et beaucoup plus adapté au réchauffement climatique.
Alors le bois, est-ce que c'est vraiment la solution à grande échelle? Parce que est-ce que la France dispose de suffisamment de ressources forestières pour répondre à la demande? Imaginons que demain, chaque construction soit basée sur le bois.
Oui, alors... D'abord, c'est thématique. La France a la première forêt. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on utilise le bois? D'abord, il faut quand même... Là, on va passer sur le deuxième argument. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter, mais il faut arrêter d'émettre. D'accord? Donc, il faut baisser nos émissions. Pourquoi est-ce qu'on utilise le bois d'abord? Numéro un, pas simplement parce que c'est sympa, pas simplement parce que c'est vraiment garci, tout simplement parce que ça nous permet de baisser la facture carbone des immeubles d'à peu près de 50%. Donc, c'est colossal. Le ciment, c'est l'équivalent pour notre métier du charbon. D'accord? Donc le ciment, c'est très émetteur. Je rappelle, comme à tous vos éditeurs, qu'on continue à fabriquer du ciment en brûlant des pneus. Aujourd'hui, au sud de Toulouse, en brûlant des pneus. Il faut quand même le savoir. Et la formule chimique qui détermine le ciment, elle est en elle-même émettrice de CO2. Donc le ciment, ça veut dire beaucoup d'énergie, parfois en brûlant des pneus, donc vous imaginez le bilan carbone. Ça veut dire beaucoup d'émissions directes. Il faut ensuite aller chercher du sable, on va le chercher de plus en plus loin, il faut aller chercher du métal, et ça, c'est très carboné. Donc le ciment, le béton, c'est de toute façon... Alors, nos amis du béton, ils font beaucoup d'efforts, ils essayent de diviser aussi par un certain nombre de facteurs leurs émissions de carbone, il le faut, c'est absolument indispensable, mais nous avons d'autres matériaux aujourd'hui disponibles. Le bois, ouais. La mêlée collée contre-croisée, ouais. Permet d'avoir des immeubles quasiment, enfin jusqu'à 8 étages, on en a fait des immeubles, même jusqu'à 16 étages aujourd'hui, qui sont réalisables avec ces matériaux bois. Donc ce matériau bois, il va permettre de diviser par deux les émissions de carbone sur le cycle de vie, parce que la photosynthèse c'est quoi? L'arbre c'est quoi? C'est une immense pompe qui mange du CO2, qui mange du carbone, qui va conserver le carbone et rejeter de l'oxygène.
D'accord.
Donc,
mais
si on veut décarboner. Alors après, la disponibilité de la forêt française. Voilà. Oui, bien sûr. J'avais calculé, je me souviens au début quand on s'était lancé là-dedans, que si on faisait 100% de la production française de logements en bois plutôt qu'en béton, on allait consommer 5 millions de mètres cubes de bois sur une production annuelle une disponibilité d'à peu près 50 millions. Donc, ça veut dire 10% de la disponibilité, 10% de la croissance de nos forêts.
Oui,
donc,
d'autant
oui,
que... Oui.
C'est possible. Oui, c'est possible.
D'autant que WO2, vous développez toute une filière derrière au niveau du bois, au niveau des forêts.
Alors derrière, bien sûr, nous on exploite des forêts qui nous permettent d'ailleurs de diminuer encore l'impact carbone, parce que ces forêts, comme toutes les forêts, elles passent leur journée à stocker du carbone, hein, c'est la fameuse photosynthèse, et ça nous permet de diminuer encore le bilan carbone en intégrant le tout, à la fois l'exploitation des forêts à travers les crédits carbone, et puis la construction carbone qui, elle, va économiser en fait des émissions par rapport à un scénario plus traditionnel dans lequel on n'utiliserait que du béton.
Un mot sur la réglementation, parce que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la France a adopté la RE 2020, enfin 2020, donc la réglementation européenne 2020. Elle s'adresse aux professionnels du bâtiment et impose de nouvelles normes environnementales, énergétiques aux constructions neuves. Est-ce que les critères d'aujourd'hui sont encore valables? 2020,
oui, bien sûr.
2026.
La RE 2020, alors vous savez, classiquement en France, on adorait le kilowattheure au mètre carré. Et moi j'ai appris que, en fait, si c'était faible le kilowattheure au mètre carré, c'était formidable. Ça suffit plus aujourd'hui. Ça suffit plus. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est le CO2 au mètre carré. C'est pas le kilowattheure au mètre carré. Donc, le kilowattheure au mètre carré, il nous dérangeait pas parce que c'était la chasse au gaspille de Raymond Barre. Donc, ça datait d'il y a très très longtemps,
ouais.
Le kilowattheure au mètre carré. Donc, on a rajouté, en France, vous savez, on n'aime pas enlever les choses. Donc, on a rajouté à côté d'un compteur de kilowattheure au mètre carré, un compteur avec la RE 2020 de CO2 au mètre carré. Sur le cycle de vie de l'immeuble, ça veut dire la construction qui fait à peu près 60% des émissions quand même, la construction. Donc, vous voyez que le choix du matériau de construction, c'est pas rien. Et puis ensuite, l'exploitation d'un immeuble sur 50 ans et puis sa démolition, sa reconversion. Donc, oui, nous sommes en avance sur la réglementation et oui, la filière de promotion immobilière a fait d'énormes progrès. Vous voyez, c'est.
Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir les critères
Est-ce qu'il ne faut pas accélérer? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter? Moi, je suis en effet pour que tous. Alors, je ne suis jamais pour appeler pour des réglementations, etc. Mais je suis en effet pour que. On continue à avancer là-dessus pour qu'on baisse les seuils. Je suis pour qu'on baisse les seuils. Je suis pour qu'on délivre des avantages à tous ceux qui jouent le jeu de la décarbonation. Il faut les aider. Pourquoi ? Parce qu'en plus, la promotion immobilière, comme vous savez, c'est naturellement surtaxé et surréglementé. En France, en particulier, c'est pour ça.
On va en parler.
C'est pour ça qu'on a quand même du mal à produire aujourd'hui des immeubles.
C'est bloqué.
Mais c'est un peu bloqué. Mais il faut absolument qu'on encourage cette construction bas carbone et ultra bas carbone. Je vais vous dire pourquoi. Non seulement parce que c'est utile pour le climat, c'est non seulement parce que c'est adapté au réchauffement climatique, mais aussi parce que c'est très sympa à habiter. Parce que le bois, c'est magnifique. Et qu'en fait, nous, on est des êtres vivants, que le bois, c'est vivant. Et que depuis le temps qu'on est sorti de la caverne, je pense qu'on préfère habiter dans un habitat en bois qu'un habitat strictement minéral. On est fait pour ça. Et la plupart des gens, vous savez, quand je faisais des appartements, j'ai reçu des lettres de gens qui m'ont dit la famille s'est réconciliée parce que depuis qu'on habite dans du bois, les enfants sont plus calmes.
Ah oui,
gens,
ça va loin.
Ils crient moins, je dors mieux, je suis plus relaxé, etc. Bien sûr. Bien sûr.
Ça va très loin. Le marché immobilier de l'immobilier de bureau n'échappe pas à la crise du secteur global de l'immobilier. Il y a un recours massif au télétravail, même si de grands groupes quand même commencent à freiner sur le télétravail. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a une crise de surproduction aujourd'hui dans l'immobilier de bureau ?
En fait, on a une surproduction d'immeubles dont plus personne ne veut. Donc c'est un peu embêtant.
Donc on a
un vieillissement du stock et énormément de bureaux qui n'ont aucune performance environnementale, peu de performance énergétique et qui surtout dans leur conception ne correspondent plus à la demande. Mmh. Aujourd'hui, les entreprises nous disent quoi ? Quand je parle à des patrons du CAC 40, du SBF 120, des grandes boîtes d'audit, elles nous disent j'ai besoin de bureaux non plus pour produire. Parce que la production, elle a lieu partout, depuis chez soi, demain sur les ordinateurs ou sur les data centers de l'IA à Los Angeles ou peut-être dans l'espace. La production, elle aura lieu partout. J'ai besoin de bureaux pour que les gens se sentent bien ensemble, échangent, fassent preuve de créativité, se sentent dans une entreprise, etc. Et donc, en fait, les derniers bureaux que nous on fait aujourd'hui,
ça
que ce soit pour AstraZeneca,
quoi,
pour
ouais.
GRDF, pour Otis, pour Panasonic, pour Sanofi, pour tous ces gens-là, les derniers bureaux qu'on est en train de faire, en fait, ce sont des bureaux qui ne ressemblent plus du tout aux bureaux traditionnels.
C'est-à-dire que c'est des lieux de passage.
Ce sont des codes qui sont beaucoup plus hôteliers. C'est des bureaux pour être ensemble, 12 mètres de hauteur sous plafond, 5 ou 6 restaurants avec des terrasses, assez souvent des restaurants gratuits, pour que les gens, notamment le lundi et le vendredi, pour qu'ils aient envie de rester, pour qu'ils aient envie d'échanger, des escaliers de premier jour. Donc en fait, on n'est plus dans l'ascenseur, on n'est plus dans le milieu carcéral où on arrive et on s'enferme dans l'ascenseur et on monte et en fait après on se réenferme et puis on est dans un poste de travail où on peut pas ouvrir la fenêtre, donc on est enfermé à son poste de travail, c'est fini. C'est plus des bureaux carcérales, ce sont des bureaux de liberté avec beaucoup de nature, énormément de terrasses. Vous voyez, à Marcadet, dans le 18e arrondissement, on a un immeuble de 30 000 m2. Il y a un demi-hectare de végétation et de terrasses sur le toit. Un demi-hectare. Ouais. Donc, c'est une révolution de l'usage de bureaux. Et ces bureaux, je peux vous assurer qu'ils se louent très bien et très vite. Dans le même temps, il y a tout un stock obsolète. Des bureaux version années 90, version années 2000, auxquels j'ai participé, je le dis, c'est un peu, j'en ai fait quelques milliers de mètres carrés, quelques centaines de milliers de mètres carrés, même plutôt. Et ça, ce sont des bureaux qui étaient faits pour avoir le minimum de mètres carrés par poste de travail. Donc, on vous mettait une hauteur sous plafond extrêmement limitée, et puis on rangeait par rodognon, là, comme des sardines dans une boîte de sardines, un maximum de postes de travail. C'est fini. Aujourd'hui, les entreprises doivent recruter, elles doivent ramener les gens du télétravail, et elles doivent faire en sorte que les salariés comprennent l'objectif de l'entreprise.
Et une question, vous pensez quoi de la tour Triangle, du coup, qui est en cours de construction?
Je ne fais pas de commentaire, parce que c'est mon ancienne maison, donc je ne commente pas sur...
Non, mais ce genre de construction
sur
sur
la tour Triangle.
Qu'est-ce que vous pensez des bureaux aujourd'hui qui sont construits en cours de construction et qui sont construits encore sur un ancien modèle?
Moi, je fais autre chose, je propose autre chose. Je pense qu'il y aura de la place quand même malgré tout, surtout sur ce type de localisation, il y aura de la place pour tout le monde. Moi, je suis engagé dans une autre conviction qui est l'ultra bas carbone. Je fais des constructions en bois pour des grandes entreprises qui ont envie de témoigner de quelque chose, de témoigner de leur engagement, parce que toutes les entreprises aujourd'hui ont des objectifs de réduction de leur empreinte carbone. Il n'y en a pas une qui n'en a pas. Dans les pages de RSE, prenez les entreprises du CAC ou du SBF 120, les pages RSE, c'est avant tout la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc moi, je leur propose tout simplement des sièges sociaux ultra bas carbone, mais faits pour les modes de travail des années 2030-2040, qui ne sont pas ceux des années 1990 ou 2000.
Une dernière question, dans 10 ans, elle ressemble à quoi la ville française qui se sera bien adaptée au changement climatique ?
C'est nécessairement une ville plus végétale. Bon, alors, tout le monde s'est moqué un peu de la mairie de Paris avec les forêts urbaines, etc., les vélos. Bon, c'est nécessairement une ville beaucoup plus végétale. Beaucoup plus végétale. Ça, c'est absolument un truc. Et je pense que c'est une ville dans laquelle il y aura de la construction, il faut de la construction, il faut de la régénération
et de la reconstruction
urbaine.
Mmh.
Il faut arrêter de penser qu'une ville, ça doit être, on la met sous un couvercle et demain, Paris doit devenir Venise. Paris n'est pas Venise. Encore Paris, c'est la capitale économique de la France. C'est la vitrine pour les investisseurs. Et donc Paris, ça doit être la capitale économique de l'Europe. Elle peut le devenir. Nous avons les infrastructures. Depuis que Londres est sortie du paysage, Paris a une carte à jouer considérable. Mais il faut faire des sièges sociaux, il faut faire des endroits, des lieux pour que les entreprises se sentent bien et qui correspondent à la demande, bien sûr.
Il y a encore du boulot, en tout cas. Merci beaucoup, Guillaume Poitrinal.
Merci.
Je rappelle que vous êtes le cofondateur de WO2. Dans un instant, Voyageurs du Monde décide de quitter la Bourse de Paris. Après y avoir été coté pendant 20 ans, la composition du capital est aussi remaniée au bénéfice d'un fonds américain qui monte au capital du groupe. Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde, sera sur ce plateau dans un instant. À tout de suite.
Le 18-19, Stéphanie Collot.
Le 18-19 se poursuit avec Voyageurs du Monde. Le groupe spécialisé dans le voyage sur mesure décide de quitter la Bourse de Paris après y avoir été coté pendant 20 ans. La composition du capital est aussi remaniée avec la montée en puissance d'un fonds américain au sein du groupe. Bonsoir Jean-François Rial.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde. Le groupe va donc sortir de la Bourse de Paris. Pourquoi cette décision ? La Bourse, c'est trop de contraintes, trop de paperasse, trop de réglementation ?
Non, c'est pas pour nous, surtout qu'on venait d'un milieu, nous les fondateurs, qui étaient très familiers avec ça. En plus, on a des actionnaires, qu'ils soient individuels ou institutionnels, avec qui on a des rapports merveilleux, donc c'est plutôt un crève-cœur. C'est plutôt qu'en fait, on a un flottant qui est devenu de plus en plus petit, donc en réalité, la liquidité n'était pas évidente pour nos actionnaires. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à nous, mais qui pourraient pas investir dans une société cotée, en particulier des étrangers. Donc, bon an, mal an, on a réfléchi tous ensemble avec les actionnaires et nos actionnaires investisseurs financiers qui nous accompagnent depuis plusieurs années étaient assez tous favorables à l'idée de sortie de cote. Mmh. Donc on a hésité, on a réfléchi, on s'est laissé convaincre et on est passé à l'acte. Alors on n'est pas encore complètement sorti de la cote parce qu'il faut que l'OPA réussisse quand même.
Bien sûr.
Les actionnaires ne veulent pas vendre, on restera à côté bien sûr.
Bien sûr. Alors en tout cas, l'objectif de cette opération, c'est que le fonds américain Certares devienne le premier actionnaire avec 51% du capital, mais 49% des droits de vote. Ça veut dire que vous conservez la gouvernance, qu'elle reste française, mais que le groupe passe sous pavillon américain.
Alors, j'entends dire ça, mais en réalité, le groupe passe pas du tout sous pavillon américain. D'abord, nos amis américains qui sont actionnaires l'étaient déjà, simplement ils étaient actionnaires en haut et en bas. Vous voyez, c'est-à-dire en haut, la holding qui fait l'OPA, et en bas, sur Voyageurs du Monde. Tout mélangé, effectivement, ils ont à peu près 50%. Ils ont une telle confiance en nous qu'ils ont accepté d'être minoritaires en droit de vote. Mmh. Ils sont du coup majoritaires avec nous, bien sûr, ou avec n'importe quel autre actionnaire qui représente suffisamment de capital. Mais il y a quand même plus de 50% de la société qui reste française. Hein. Il y a Crédit Mutuel Equity, il y a la BPI, c'est quand même pas rien comme actionnaire, la BNP, Montefiore, et puis les fondateurs.
Ça veut dire que vous gardez la main, malgré tout ?
Bien sûr. Alors on garde la main pas parce qu'on veut absolument garder la main. pas parce que on le supplie de garder la main, mais parce que nos actionnaires, tous, ils ont tous envie que d'une chose, c'est qu'on s'en aille surtout pas. Ils veulent qu'on reste à la tête de l'entreprise. Maintenant, évidemment, cette opération conduit au fait qu'on perde la majorité. On perd la majorité de la société. C'était de toute façon inéluctable en 2028. Et donc, on a un peu bougé notre position d'actionnaire, parce qu'à partir du moment où on perd la majorité, avoir 25% du capital ou 10% du capital, ça change pas grand-chose. On reste tout à fait actionnaire significatif, hein, on garde à peu près 8%, et on continue de gouverner l'entreprise, et on organise dans les 5 ans qui viennent notre succession, parce que malheureusement, on n'est pas éternel. Et j'aimerais bien qu'Elon Musk nous le rende, parce que c'est son mythe.
Et vous préparez votre sortie, en quelque sorte.
Voilà, on a 63 ans pour moi, 67 ans pour d'autres. Bon, et si on est responsable et que vont garantir la pérennité de cette entreprise, on doit la pérenniser. Mais elle ne passe pas sous pavillon américain. J'ai entendu dire ça à droite et à gauche. C'est des bêtises, ça.
En tout cas, les grandes entreprises françaises du tourisme sont quand même attirent les fonds étrangers. On a, même si c'est une autre gamme, Pierre et Vacances Center Park, qui est sur le point d'être acheté par un fonds émirati. Club Med qui a été racheté par un fonds chinois. Est-ce qu'on est sur un mouvement de fonds? Est-ce qu'on est condamné à avoir...
Non, moi je crois pas du tout, parce que vous avez plein d'investisseurs français qui investissent sur des opérateurs étrangers, à commencer par nous d'ailleurs. On a investi aux États-Unis, on a investi en Angleterre, on a investi dans différents pays du monde. Par ailleurs, notre partenaire américain qu'on a depuis longtemps, c'est des gens absolument charmants, avec qui on travaille depuis 4 ans, qui sont extrêmement bienveillants avec nous, qui adhèrent totalement à notre stratégie. Et il y a certains investisseurs français qui pourraient être beaucoup plus désagréables avec nous et pas en adéquation avec notre ADN, parce que notre enjeu, c'est pas la nationalité des investisseurs. J'entends
c'est
certains...
de conserver l'ADN, c'est
mais
ça,
voilà,
de voyage ordinaire.
Préserver l'ADN de l'entreprise, pérenniser son développement international,
alors justement...
garder ses spécificités de cette idée du voyage... vrai, beau, profond, en dehors des sentiers battus, avec un contenu exceptionnel, à la fois touristique et non touristique, et lié à votre profiling. C'est ça l'esprit voyageur du monde, ce regard universel sur le monde, etc., etc. Eh ben, il se trouve que mes amis américains qui sont actionnaires avec nous depuis 5 ans, ils ont cet esprit-là. Donc moi, je suis très content qu'ils soient là. Et je dirais que par ailleurs, il faut quand même pas oublier que chez eux-mêmes, ils ont des investisseurs qui sont pas américains. Donc le fonds qui est chez nous, géré par des Américains, à des investisseurs qui sont du monde entier. C'est un fonds spécialisé dans le tourisme, il s'appelle Certares. C'est des gens remarquables. Ils sont investis dans plusieurs activités touristiques, en France, en Europe et aux États-Unis. Et moi, je suis bien content de les avoir, en tout cas.
Et votre objectif aujourd'hui, c'est de développer l'international. Comment vous voyez les choses?
En fait, nous pensons que la proposition de Voyageurs du Monde dans le voyage sur mesure est très originale. Ce n'est pas un assembleur de prestations de luxe, c'est un regard sur le monde, un contenu spécifique, totalement profilé avec son client, avec un très très haut niveau de service, avec bien sûr toutes les compétences habituelles que nous avons sur les spécialistes pays. Et nous avons développé cette offre en Angleterre, en Suisse alémanique, au Canada, en Belgique. Ça marche très bien. On a construit une plateforme internationale qui nous permet d'aller très vite dans de nombreux pays. L'IA nous y aide beaucoup parce que les coûts de traduction...
J'allais vous demander, oui.
Voilà, les coûts de traduction se sont écroulés. Donc, l'objectif des actionnaires, de tous les actionnaires, c'est de pousser les feux pour que cette offre très originale puisse être ailleurs. Et donc, on va ouvrir, par exemple, à Munich au mois d'octobre, à Milan, je pense, tout début 2027, et dans un tas de pays ailleurs dans le monde, ce qui ne nous empêchera pas, par ailleurs, de développer nos autres offres, en particulier sur l'aventure, le vélo, de façon également importante.
Et vous envisagez des acquisitions aussi?
Pas trop, parce que on a quand même constaté, en faisant les deux organisations, acquisition et transformation, ou création ex nihilo, de notre part, que notre ADN, dont vous parliez très bien tout à l'heure, eh bien, il est mieux mis en place lorsqu'on fait une création ex nihilo. On a fait Zurich l'année dernière, suisse-allemand, marché suisse-allemand, on sait que les Suisses sont des gens très exigeants, eh bien, ça a très bien marché. Donc, on n'est plutôt pas sur des acquisitions. Ça ne veut pas dire qu'on les exclut. Il faut être pragmatique dans la vie. Et puis, il peut y avoir des acquisitions sur nos autres secteurs d'activité, hein. On a un pôle sur mesure, on a un pôle vélo, on a un pôle aventure. On peut en faire. Mais Je pense que le temps des acquisitions qu'on a fait depuis des années chez Voyageurs du Monde, qui représentait à peu près un tiers de notre croissance, est un peu révolu.
D'accord. Concernant l'activité, vous avez publié un chiffre d'affaires de 785 millions d'euros en 2025, une hausse de 7% sur un an. Activité qui est cette année percutée par la guerre au Moyen-Orient. Quel est l'impact aujourd'hui du conflit au Moyen-Orient, qui semble se reprendre depuis quelques heures, sur Voyageurs du Monde?
Il est important. Il est important. On a eu une baisse des réservations significative depuis début mars. Depuis l'arrêt des hostilités, enfin.
La pause, la trêve.
La pause. On n'a pas vraiment senti une très forte reprise, même si c'était moins mauvais, mais c'était quand même pas encore dans le vert. En même temps, on est sur des périodes de réservation qui sont très faibles. Hein. Tous les mois actuels sont des périodes de réservation qui sont très faibles. En même temps, on cumule, c'est pas totalement catastrophique parce que on avait engrangé énormément de ventes de voyages pour l'année 2026 à fin février. Mais globalement, tout ça n'est pas très bon.
Il y a eu un report sur d'autres destinations?
Pas vraiment, parce que je dirais que c'est pas des zones qui sont touchées. C'est toutes les zones qui sont touchées. C'est le voyage dans son ensemble qui sont touchées, parce que la spécificité de ce conflit, c'est que c'est pas juste les conséquences du conflit. C'est les conséquences sur le kérosène. Ouais. Et donc, il y a des gens qui voulaient plus aller en Asie ou en Afrique du Sud ou au Brésil parce qu'ils avaient peur de pas pouvoir revenir. Du coup, les réservations sur 2027 sont pas trop mauvaises. Elles sont pas non plus extraordinaires, mais pas trop mauvaises. Donc, je dirais que là, on est dans une période un peu de tension sur les réservations de voyage qui dure depuis presque 4 mois, maintenant 3 mois et demi.
Donc ça va peser.
Bien sûr, clairement. Ça va peser. C'est indiscutable que ça va peser.
Vous avez d'ores et déjà une...
On fera un peu moins de chiffre d'affaires cette année que l'année dernière. Dans quelle proportion, je n'en sais rien, parce que c'est un peu compliqué à estimer. Et puis vous savez, on est coté hein, encore, hein, donc je peux pas dire des choses qui soient pas globalement publiques, mais c'est clair que cette année sera pas la meilleure année du groupe Voyageurs du Monde.
Et aujourd'hui, comment vous envisagez le voyage dans la région du Moyen-Orient? Est-ce que vous planifiez d'ores et déjà une reprise de l'activité à fin de l'année, par exemple? Ou vous mettez totalement le pied sur le frein sur la région?
On ne sait pas. Non, non. Nous, à tout moment, on peut tout à fait reprogrammer. On a des clients qui peuvent partir en Oman. On a même des clients qui peuvent partir aux Émirats. Évidemment, on va pas en Iran, en Israël, en Jordanie. Tout ça est très compliqué. Mais l'Égypte, par exemple, qui est une de grandes destinations, n'a pas beaucoup
avec
souffert.
La croisière sur le Nil, notamment.
Voilà. Ouais. Elle a pas beaucoup souffert. Elle marche très fort. Et je dirais que c'est pas tant les voyages sur la zone qui posent problème. C'est le principe même du voyage dans le monde entier. Et d'ailleurs, nos confrères sont tous touchés dans les mêmes proportions que nous. Nos confrères allemands ou anglais, qui sont les deux principaux pays au monde émetteurs de touristes, hein, sont très touchés parce que vous êtes sur une ambiance guerre, géopolitique, crise économique. On ne sait pas ce que M. Trump va dire chaque matin. Tout est possible avec lui. Donc, ça pousse pas la consommation de voyage. Et puis, vous y rajoutez quand même une ambiance économique assez moyenne en France, qui représente encore les deux tiers de nos clients. Vous y rajoutez l'incertitude de l'élection présidentielle et des conséquences sur les décisions budgétaires et fiscales pour les Français. Bon, ben, tout ça n'est pas le meilleur momentum pour nous.
Effectivement, ça annonce une année 2026 quand même particulièrement difficile. Les tendances voyage là cette année, cet été, quelles sont les destinations qu'on voit en poupe malgré l'environnement international, et à l'inverse celles qui n'attirent plus, comme les États-Unis, vous en avez parlé. Il y a un désamour aujourd'hui, vous constatez un désamour vis-à-vis
Alors
de la
les
destination États-Unis.
Ça fait plusieurs mois que c'est une destination qui était la principale destination chez nous, qui est en très forte baisse. C'est au moins 50%. Il y a une double raison. Hein. Il y a Trump, c'est-à-dire qu'on est effrayé par Trump. Les gens ne veulent plus aller aux États-Unis à cause de Trump. En tout cas, il y en a une partie d'entre eux. C'est très clair. Ouais. D'ailleurs, je tiens à dire que nos investisseurs américains sont des démocrates, pour ceux qui s'en inquiètent.
Ouais.
Et par ailleurs, nous avons également un effet qui est lié au prix. C'est-à-dire que les prix aux États-Unis, quand vous allez prendre votre petit déjeuner, un déjeuner, ça, c'est extrêmement cher.
On n'a plus le niveau, nous, Français, pour se le payer.
Pas que les Français, je dirais tous les Européens. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, en commandant dans un hôtel un peu standard, un petit déjeuner où je prenais juste un café et une omelette, j'en avais pour 78 dollars. Donc quand même, il y a un sujet.
78 dollars le petit déjeuner ?
78 dollars. Bon. Donc, si vous voulez, ça freine les voyages en famille, ça freine un tas de voyages comme ça. C'est pas la seule zone qui souffre. Hein. Vous avez évidemment le Moyen-Orient qui souffre, oui. Arabie Saoudite, Émirats, etc. Mais vous avez aussi l'Asie qui souffre, parce que l'Asie est moins desservie par les compagnies aériennes qui passent par le Golfe, ou du moins, elle est à nouveau desservie fortement, mais les gens ne veulent plus prendre des vols qui s'arrêtent dans le Golfe.
C'est qu'il y a un risque, oui.
Ah. Il y a aussi des gens qui se disent « je ne vais pas survoler la zone » alors qu'on ne survole jamais la zone, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Donc l'Asie souffre un peu alors qu'elle avait vraiment le vent en poupe. Et ce qui tire son épingle du jeu, c'est quand même l'Europe, très clairement. Mm-hmm. L'Amérique latine, quand même, et un peu l'Afrique. Voilà. Mais globalement, tout est un peu en baisse. Hein. Mm.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'IA. Vous avez dit donc que vous utilisez l'IA. Ouais, est-ce que néanmoins, ce n'est pas aussi potentiellement un concurrent dans le sens où aujourd'hui, on peut se créer un voyage presque sur mesure via ChatGPT et consorts ?
Alors, oui, c'est un concurrent quand vous proposez des voyages à très faible valeur ajoutée. Mais quand vous avez des voyages à très forte valeur ajoutée, pour l'instant, on n'en est pas là. Ça pourrait peut-être changer dans les années à venir. Hein. Mais on est très loin de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour nous, c'est surtout un outil qui nous permet d'améliorer la productivité, d'améliorer nos coûts, d'améliorer la qualité de nos conseillers en leur enlevant les tâches les plus simples. Donc pour nous, c'est surtout un outil de gain de productivité.
Et ce n'est pas une menace ?
Pour l'instant, non. En tout cas, pas sur le créneau de voyageurs du monde ou du voyage d'aventure, encore moins, parce que dans le voyage d'aventure, si vous voulez, bah, il faut de la logistique technique sur place ou le voyage à vélo, bah, l'IA va avoir du mal à la fournir.
Merci beaucoup Jean-François Riel. Je rappelle que vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde.
Merci ensuite, beaucoup.
On va parler des patrons de TPE qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique à quelques mois de la présidentielle et alors que la situation économique se dégrade.
Le 18-19 sur BFM Business.
À moins d'un an de l'élection présidentielle, une question se pose. Les dirigeants de TPE décrochent-ils du débat politique ? Selon le dernier baromètre des TPE, moins d'un dirigeant sur trois se reconnaît aujourd'hui dans les candidats déclarés. Pire, l'étude révèle une dégradation inquiétante de la situation économique de ces structures. On va décortiquer ce baromètre avec vous, Marc Sanchez. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Comment vous expliquez ce chiffre, moins d'un tiers des patrons de TPE qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique ?
Bah écoutez, globalement, je pense que la situation que vivent beaucoup de dirigeants de TPE aujourd'hui, des commerçants, des artisans, n'est vraiment pas pris en compte depuis un certain nombre d'années par la classe politique de manière générale. Ce qui fait effectivement que ça génère une espèce de détérioration de l'image politique. Il faut dire aussi que le spectacle politique qu'on a eu sur ces deux dernières années était quand même assez affligeant. Et en fait, ils considèrent aussi que la spécificité de la très petite entreprise aujourd'hui n'est pas suffisamment prise en compte dans ces problématiques. Alors, on parle beaucoup hein, des PME de manière générale, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les TPE, c'est grosso modo 6 millions d'actifs, donc ça reste quand même en termes de production et de personnel et de travailleurs indépendants de manière générale une force importante, et que cette économie de proximité, finalement, n'a pas été suffisamment considérée. Et donc aujourd'hui, on en paie finalement un petit peu le prix, et c'est ce qui ressort effectivement de l'enquête.
Alors, cette enquête, justement, elle a été effectuée avant l'annonce du maintien de la candidature de Marine Le Pen. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que les dirigeants de TPE sont plus sensibles au discours du RN ?
Non, très sincèrement, c'est pas ce qui ressort de l'enquête globalement. Ce qu'on constate, effectivement, c'est que, grosso modo, comme vous l'avez dit, pour 30% d'entre eux, ils estiment que leur décision est déjà prise et leur candidat est choisi. On en a 40% qui considèrent qu'il n'y a aucun candidat qui peut répondre à leurs attentes. Et on en a 30% qui sont dans une attente, effectivement, des programmes, en fait, qui seront proposés. Ce qui a obligé, donc, le SDI, finalement, à rentrer en contact avec les différentes équipes de campagne. Ce qu'on a fait déjà depuis plusieurs semaines. Avec les différents grands candidats, on va dire, que ce soit le RN, mais c'est aussi LFI, c'est Horizon, c'est Renaissance, et donc sur ces parties-là, et les Républicains, et sur ces parties-là aujourd'hui, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une prise en considération de la problématique TPE, mais que dans les faits et dans les programmes, en tout cas pour le moment, il n'y a pas de propositions concrètes qui ressortent et qui prennent en considération des problématiques, que ce soit sur la réduction des charges qui pèsent sur le travail, ouais. Que ce soit sur la protection sociale des indépendants, etc. etc.
Ça, on va y revenir. Est-ce que néanmoins dans votre étude ou lors de oui pendant votre étude vous avez remarqué qu'un candidat émergeait un peu plus que l'autre qu'un autre? Est-ce qu'il y a un peu plus de sensibilité dans un
très
camp?
Très sincèrement, non. C'est pas on n'a pas voulu se poser sur un plan partisan en fait. Ce qui nous intéressait, c'est d'avoir par rapport aux problématiques que vivent ces entreprises, quelles étaient les réponses ou quelles pouvaient être les réponses. Et à ce stade, effectivement, dans la répartition que j'ai donné tout à l'heure, beaucoup ne se reconnaissent pas dans ce qui peut être proposé pour le moment.
Alors justement, vous parliez de cette dégradation de la situation économique des TPE. On parle de quelle proportion de la dégradation de leur situation aujourd'hui?
Alors, dans l'enquête que nous avons produite, c'est notre baromètre trimestriel, ce qu'on constate en termes de chiffres majeurs, c'est qu'on a à peu près 68% du panel qui considèrent, enfin, qui ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires. On en a 70% qui ont une perte de marge et on en a 61% qui ont des problématiques de trésorerie à des degrés différents, mais qui ont des problématiques de trésorerie. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'on constate, c'est qu'ils nous disent qu'ils sont plus dans un ralentissement économique, ce qu'on aurait pu peut-être constater avant la crise pétrolière. Ils sont vraiment aujourd'hui dans une situation où ils sont dans l'obligation d'essayer de préserver finalement leur outil de production sans savoir quand ça va redémarrer. Donc ça veut dire qu'on ne répercute pas par exemple les hausses de charges, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les loyers, etc., etc., sur les prix. Donc on va les répercuter sur les marges. Ce qui fait que beaucoup de dirigeants, effectivement, ont travaillé beaucoup pour gagner moins, notamment dans les EI ou dans les boîtes de 2 ou 3 salariés. Et donc forcément, comme il n'y a pas de perspective, et c'est pour ça qu'il y a aussi une attente par rapport aux prochaines élections présidentielles et qu'ils vont la suivre de manière très précise, aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une situation très compliquée.
Mais alors, est-ce que c'est lié à un manque de consommation, un manque, enfin la hausse des coûts? Est-ce que c'est lié aux charges, aux difficultés de recrutement? Est-ce que c'est lié à un attentisme aussi lié à l'incertitude politique?
Alors, la baisse de chiffre d'affaires, elle est constatée effectivement parce qu'il y a aujourd'hui, au niveau de la consommation, un net ralentissement, c'est-à-dire qu'il y a des reports d'achat, des reports de chantier, tout secteur d'activité confondu. Et donc forcément, effectivement, c'est un des premiers éléments. S'agissant après des charges, alors les charges c'est assez vaste en fait, mais c'est un empilement, c'est-à-dire que vous avez effectivement tout ce qui est lié aux cotisations sociales, qu'elles soient celles d'ailleurs des salariés de l'entreprise, mais aussi celles de l'indépendant, du chef d'entreprise lui-même. Vous avez tout ce qui est lié aussi aux augmentations fiscales, alors ça peut être par exemple la CFE, ça peut être la taxe foncière qui ont connu des augmentations très importantes pour beaucoup d'entreprises, et donc à partir de là, nécessairement cet empilement fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un petit peu, dans un contexte économique qui est quand même contraint, il y a un petit peu effectivement un débordement et une vraie colère aussi quelque part.
Et est-ce que tous les secteurs sont touchés de la même façon?
Complètement, oui. Très sincèrement, aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui nous explique, grosso modo, que tout va bien. Dans le baromètre, on a seulement 10% des entreprises qui ont une augmentation de chiffre d'affaires sur la période, ce qui est quasiment ridicule, quoi.
Est-ce que vous constatez un décalage entre les sujets présents dans le débat public et les préoccupations quotidiennes des chefs d'entreprise, des chefs de TPE?
Alors, si on s'inscrit dans le cadre de ce gouvernement à ce stade, c'est-à-dire que aujourd'hui, écoutez, nous on voit pas grand-chose évoluer. Il y a eu un sujet qui avait été évoqué par Serge Papin, qui est un vrai sujet, c'est la transmission
des TPE
d'ici ouais. effectivement, je crois qu'il y a 50 000 ou 500 000 entreprises.
Un mur de transmission à venir.
Qui effectivement devront être transmises d'ici une dizaine d'années. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais après, sur le reste, très sincèrement, non, il y a pas de mise en perspective. Alors. C'est pour ça qu'il y a une vraie attente au niveau des présidentielles, mais à ce stade, on voit rien venir. Alors, on y travaille, hein, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose.
Et selon vous, quels sont les sujets que les candidats à la présidentielle doivent prendre à bras le corps pour parler aux dirigeants de TPE ?
Alors, dans les contacts et les réunions de travail qu'on a eues avec les différents candidats, grosso modo, ça dépend un petit peu des partis, mais par exemple, si on prend les Républicains, ils veulent aller à fond sur la fiscalité avec une proposition qui serait de supprimer la CFE. Pour oui. Horizon, on est sur une démarche où il va falloir améliorer la productivité, c'est-à-dire travailler notamment sur les aménagements en termes de temps de travail, voir aussi la baisse des charges qui pèsent sur les salaires. Donc, il y a quand même, de manière, en fonction des partis, des propositions qui nous semblent intéressantes, qui ne sont pas encore finalisées ni chiffrées, mais je pense effectivement, de ce point de vue-là, on va essayer de progresser. Quoi. Mm. Mais les attentes, effectivement, aujourd'hui, la première dans l'enquête, c'est la réduction des charges qui pèsent effectivement sur le travail de manière générale, non pas pour faire des économies, mais pour relancer une capacité d'investissement et de recrutement dans nos entreprises.
Mais alors justement, vous parlez de baisse du coût du travail. Concrètement, sur quel poste souhaiteriez-vous que le prochain gouvernement agisse sur via une baisse de cotisation, un allègement de charges ?
Il y a deux éléments en fait. Quand vous parlez de pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat du salarié, mais c'est aussi le pouvoir d'achat du dirigeant. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va baisser, par exemple, les charges qui pèsent sur les salariés, enfin le fameux brut hein, ou le super brut, donc forcément, il y aura des répercussions sur le salaire du salarié et sur le dirigeant. C'est la même chose à travers les cotisations patronales en tant que telles. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une réflexion aussi sur le niveau de protection sociale qu'on va avoir, parce qu'elles ne servent pas à rien, ces cotisations. Donc, ça rentre dans la réflexion. Mais si vous me parlez de priorité aujourd'hui, cette économie-là, c'est pas une économie à perte, c'est-à-dire qu'elle permettra aussi à l'entrepreneur non seulement de mieux rémunérer ses salariés, de mieux se rémunérer lui-même, mais aussi d'engager à travers ça des politiques d'investissement et de recrutement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos TPE, en termes de recrutement et en termes d'investissement, on est quasiment à l'arrêt.
Parce que selon vous, on ne recrute pas parce que le travail coûte cher,
oui.
Le coût du travail est trop élevé.
Quand vous entendez, par exemple, je crois que c'est LFI qui propose ça, un SMIC à 1700 euros, je crois, mensuel. Comment voulez-vous qu'une entreprise, si en plus on remet en cause les allègements, comment voulez-vous qu'une entreprise puisse aujourd'hui dire je vais recruter? Parce qu'il y a deux aspects, en fait. Ça va avoir un impact sur les travailleurs dits pauvres, entre guillemets, c'est-à-dire sans qualification, parce qu'il faudra trouver des entreprises qui sont prêtes à payer cette rémunération, mais ça aura aussi un impact sur le salaire médian au niveau des rémunérations dans nos entreprises. C'est-à-dire qu'au plus le SMIC monte, au plus il faut monter le salaire médian. Et donc, mécaniquement, vous avez une espèce de jeu de domino qui fait qu'au final, on ne voit plus où ça s'arrête. Mmh. Et dans le contexte que nous connaissons économique aujourd'hui, c'est là où c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas l'argent.
Mais alors justement, les finances publiques sont dégradées. On le sait, comment on finance aujourd'hui un allègement du coût du travail ?
Il y a des réflexions. Alors, on a commencé un peu à les engager avec les différents candidats, mais il y a des réflexions à avoir sur le niveau de protection sociale, il y a des réflexions à avoir sur la retraite, sur le départ de l'âge légal à la retraite. Alors, c'est vrai que là-dessus, il y a des dissensions. Vous parliez du RN tout à l'heure.
Même au sein du RN, ils ne sont pas d'accord.
Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une doctrine Bardella qui est plutôt pro-entreprise, une doctrine Marine Le Pen qui l'est un peu moins, qui est plus sociale. Donc on ne sait pas par où il faut qu'on navigue par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut mettre un moteur sur les TPE aujourd'hui, c'est par là qu'on va effectivement y arriver. Mais ça veut dire aussi une remise en question quelque part, ou une meilleure gestion finalement du niveau de protection sociale qu'on accorde, que ce soit au niveau des retraites, de l'assurance maladie. On a beaucoup évoqué ces derniers mois les problématiques des arrêts maladie notamment dans les entreprises. Donc ces sujets-là, il va falloir les aborder avec une vision politique et une volonté politique qui est d'aller au bout. Mmh. Et je pense que c'est là que va être la difficulté. Ouais.
Autre grief de la part des dirigeants de TPE, c'est la simplification administrative. C'est un serpent de mer, j'ai envie de dire.
Écoutez, vous savez, c'est dans votre métier, on utilise le terme de marronnier. Alors chez nous, dans le monde patronal, c'est un marronnier depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans la simplification toujours la volonté de vouloir sursimplifier et de surcomplexifier derrière. Et c'est ce qui se passe systématiquement. L'exemple de la facturation électronique, par exemple, c'est un sujet absolument fabuleux.
Parce que ça va dans le bon sens.
Ah ben oui, non, mais la numérisation, on ne peut pas aller contre. Vous parliez d'IA tout à l'heure. Effectivement, nos entrepreneurs ne sont pas aujourd'hui contre la numérisation, contre l'intelligence artificielle. Encore faut-il en avoir les moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est sur ce sujet, on part d'un sujet qui était une norme de mise à niveau européenne, puisque d'autres pays comme la Belgique y sont déjà. Et on est arrivé, donc qui devait être gratuite au départ, avec Chorus Pro notamment, qui a été abandonné. Donc on l'a mis à la charge aujourd'hui des entrepreneurs. Vous avez à peu près 120 plateformes aujourd'hui, grosso modo, qui sont à disposition. Donc il faut choisir laquelle. Alors il y a les experts comptables qui sont donc qui vont orienter les TPE. Vous avez
mais
les banques aussi. Ah non, c'est pas gratuit. Alors on vous dira globalement, ça coûte pas cher. C'est entre 30 et 40 euros par mois, juste pour l'abonnement. Parce qu'après vous avez aussi la mise à jour de vos logiciels de paye. Ça coûte de l'argent qu'il va falloir payer. Donc ça peut représenter, je sais pas moi, entre 500 600, 700 euros par an, mais ça vient se rajouter pour quelque chose qu'on n'a pas particulièrement demandé et qui devait être gratuit. Donc l'impact au final, il est quand même négatif au niveau de l'entrepreneur, même si dans le budget de l'État, on estime que l'économie serait à peu près de 4,2 milliards d'euros. Donc c'est positif, mais pourquoi ne rentrer dans un système ? Aujourd'hui, il y a même des ETI qui considèrent qu'elles sont pas prêtes, que ce soit notamment pour la transmission ou pour la réception des facturations. Donc voilà,
donc c'est
un exemple assez
navrant.
C'est plus
la forme, c'est plus la forme que le fond que vous critiquez aujourd'hui.
Mais complètement, oui. C'est-à-dire qu'on vous tient un discours, après on vous en tient un autre. Alors pour des raisons budgétaires, etc., etc. J'entends bien le sujet, mais à ce stade, il faut savoir où on va. Quand je parlais de cap et de vision tout à l'heure, l'idée c'est de nous donner un cap et une vision et de s'y tenir, ce qui n'est pas le cas.
Merci beaucoup, Marc Sanchez. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Tout de suite, c'est le 19h Éco présenté par Erwan Maurice. Très bonne soirée.
Le 18-19 sur BFM Business.